Vous avez très certainement vu ces images incroyables tout au long de la journée. Les images où on voyait un mur de vagues de 4 à 10 mètres de haut qui a pénétré jusqu'à 5 kilomètres dans les terres. Au Japon, on parle de ce tremblement de terre de 8,9 sur l'échelle Richter. Ça s'est passé au cours de la nuit dernière en ce qui nous concerne, nous, mais là-bas, c'était le milieu de l'après-midi. 1800 maisons détruites dans la région de Fukushima, des trains portés disparus, des bateaux aussi portés disparus, des images stupéfiantes. On voit une empilade de maisons, de voitures, de petits avions, de débris et de boue. Difficile d'imaginer, on tente de le faire, mais on va, avec l'aide de notre invité maintenant, avoir une meilleure idée de la chose. Vous n'étiez pas là, Monsieur Glover. Paul Glover est professeur de pétrophysique au département de géologie et de génie géologique à l'Université Laval. Par contre, vous avez habité la région, vous avez habité Sendai, vous, pendant 2 ans, il y a une dizaine d'années de ça, pour vos travaux de recherche, c'est ça?
Oui, oui, c'est certain. Bonjour. 2 ans, presque 2 ans à Sendai. Et c'est pour la recherche d'écoulement des fluides dans les roches.
Oui. Alors, cette ville, ce matin, quand vous avez entendu la nouvelle, quand vous avez vu les images, alors, pour vous, ça veut dire quelque chose. Pourriez-vous nous décrire en quelques mots quelle taille a la ville de Sendai? Et comment c'est? Est-ce que c'est une ville importante? Est-ce que c'est une région rurale?
Oui, c'est important. C'est une ville d'approximativement 1 million d'habitants. En fait, c'est le capital de région, en fait. De région, c'est Miyagi. Et c'est une ville qui est approximativement peut-être 8 kilomètres de mer, juste à une élévation de peut-être 35 mètres, qui est bon. Et entre la ville et le mer, on a une région d'agriculture, en fait, d'une élévation approximativement 1 ou 2 mètres seulement.
Donc, on est pratiquement au niveau de la mer, ce qui veut dire quand arrive une vague de 4 à 10 mètres de haut, un mur incroyable comme ça, avec toute la force de ce mur-là, on comprend pourquoi la vague s'est rendue si loin au centre des terres. Hein?
Oui, et c'est absolument vrai. Et c'est pas juste la vague, c'est la vague et toute l'énergie qui est dans la vague, mais les choses, le bois qui des maisons déjà détruites,
voilà,
qui est dans la vague, qui cause la destruction de plus, en fait.
Oui, donc les débris justement qu'on voyait charriés comme ça.
Oui.
Vous avez habité là pendant 2 ans. Alors pendant ces 2 années-là, vous avez déjà ressenti des secousses, parce que ça arrive souvent au Japon.
Oh oui, et à Sendai, très très souvent, en fait, très très fréquemment, parce que ici on a une situation où la plaque, la plaque tectonique du Pacifique chevauche au-dessus de celui de Eurasie à une certaine vitesse. C'est approximativement 8 cm par an, qui est assez vite, en fait. Mais c'est dans une façon d'arrêter et d'aller, en fait. Et avec chaque arrêt, il y a une secousse. Mais à Sendai, il y a un grand nombre de secousses qui sont assez petits.
Oui.
Et si on a un grand nombre qui sont petits, c'est bon, c'est pas un problème.
C'est pas trop grave. De toute façon, on s'est adapté, là, si j'ai bien compris. Comment les gens vivent-ils là-bas? Il y a pratiquement des mécanismes automatiques qui se mettent en place quand il y a des secousses dans les maisons. Hein?
Oui, oui, c'est dans la culture, en fait. Et avec un tremblement de terre, en fait, on a des ondes de pression et des ondes nécessairement qui viennent à des vitesses différentes. Et les Japonais sont capables de compter dans la tête la différence d'arrivée pour les ondes de pression et les ondes de cessement pour avoir une idée de distance vers l'épicentre.
Ah oui, déjà, c'est très familier, là.
Oui, juste comme nous faisons pour les coups de foudre.
Oui, oui, pour compter pour le tonnerre et les éclairs.
Exactement.
Donc, c'est quelque chose qui est courant dans leur vie. Par exemple, les maisons, si j'ai bien compris, il y a même des dispositifs qui vont automatiquement couper le gaz dans les maisons.
Oui.
Dès qu'il y a une secousse, donc il y a les lecteurs de secousse qui vont mettre en marche des systèmes dans les maisons pour prévenir des incendies ou des... Ça fait vraiment partie de la vie des gens de là-bas, là.
Oui, oui. Et chaque année, il y a un jour pour pratiquer les choses nécessaires. Et c'est dans la culture. C'est très, très profondément dans la culture.
Avez-vous eu l'occasion de joindre des gens? Vous connaissez certainement des gens là-bas.
Oui, j'ai pas le contact avec mes collègues au Japon, malheureusement.
Oui.
Mais c'est pas un bon chose pour moi. Mais il y en a d'autres gens au Québec qui a les relations et les gens plus proches de moi.
Oui.
Et donc j'ai fait la décision de juste laisser les lignes ouvertes
pour exactement. Oui, ouais, je comprends. Mais quand même des images que vous avez vues, pourriez-vous nous aider à comprendre ce qui s'est passé? En combien de minutes ça s'est passé? Qu'est-ce que ça signifiait pour les gens de cette grande ville d'un million d'habitants?
Oh, c'est incroyable, en fait. On a peut-être plus de 2000, 3000, peut-être 5000 fatalités, peut-être.
Vous pensez au moins autant de décès?
Oui, parce que c'est pas juste une question de Sendai, c'est une question de tout le nord de Honshu, en fait, de Tokyo vers Fukushima et Sendai. Et on a peut-être une perte des milliers, des millions de dollars.
Ah oui, vraiment.
Oui, financièrement. Oui. Et des choses culturelles aussi, des anciens temples de Japon. J'imagine on a un problème avec ça.
Oui.
Il y en a une juste à Matsushima, qui est un lieu au nord de Sendai, très très beau. Très, très belle, excusez-moi.
Oui. Qui pourrait peut-être être détruit, parce
exactement.
Qu'évidemment, ça a tout balayé sur son passage, cette vague-là. Est-ce que vous savez quelle superficie ça couvrait quand cette vague est arrivée de la mer? Est-ce que c'était tout le long de la côte?
Oui, tout le long de la côte. Et c'est très, très important de dire que les vagues sont pas comme les vagues normales.
Non.
Parce que l'épaisseur d'une vague normale, peut-être, c'est quelques kilomètres. Pas une épaisseur de profondeur, mais latéralement. Juste
oui.
quelques mètres, peut-être. Et ici, on parle des deux ou trois vagues associées avec un tsunami et chaque a une longueur de 50 kilomètres.
50 kilomètres?
Oui, c'est comme un bloc de l'eau qui se déplace vers la côte avec l'énergie et la masse de blocs de l'eau.
C'est incroyable, ça pulvérise les choses sur son chemin, les maisons, les arbres déracinés, les voitures aussi qu'on voyait flotter comme si ça avait été
exactement.
Des jouets. Là.
Ça, c'est la raison que c'est très, très difficile d'arrêter. On a le sentiment que c'est impossible d'arrêter l'arrivée de vagues. C'est parce que la vague est si grand, si massif, avec si grand niveau d'énergie.
Alors, mais ça perturbe tellement de choses. On a vu qu'il y a des incendies qui font rage. On peut pas se rendre sur place pour les pompiers peuvent même pas aller faire le travail. La circulation routière est perturbée. On a vu qu'il y a des trains entiers qui ont été engloutis par les vagues et déplacés. On cherche encore les trains. En mer, des bateaux, un bateau qui contenait 80, 100 personnes, on est sans nouvelles du bateau. Donc, c'est une force de la nature incroyable qui est en action ici, là.
Oui, oui. C'est une raison pour que on a notre premier ministre ici qui offre l'aide. Et c'est parce que par rapport aux forces de nature, c'est nécessaire pour tous les gens sur la surface du globe de faire des choses qui sont nécessaires, en fait, dans une façon unifiée.
Oui, il faut effectivement, la communauté internationale va se tourner du côté du Japon, va prêter main forte, mais pour l'instant, ce qui est assez caractéristique de la situation, c'est qu'on est encore un peu dans l'inconnu. Les informations continuent à entrer au compte-gouttes, comme je le disais un peu plus tôt, là-bas, c'est la nuit. Que croyez-vous que l'on va découvrir demain quand on va avoir d'autres images, quand on va avoir d'autres comptes rendus de ce qui s'est passé?
Ah, c'est chaotique demain, j'imagine. Ça sera chaotique pour quelques jours. Et après quelques jours, peut-être, on passe dans une autre phase, une phase de récupération et de mise en marche des choses encore. Oui, mais c'est vraiment une chose terrible.
Oui, ça a dû vous toucher énormément quand vous avez vu ça ce matin au réveil, comme tout le monde.
Oui.
Ouais. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir vous asseoir avec nous en studio pour en parler. Paul Glover est professeur de pétrophysique au département de géologie et de génie géologique de l'Université Laval. Il a habité pendant 2 ans à Sendai, cette ville d'un million d'habitants située à 300 kilomètres au nord-est de Tokyo et où les autorités ont déjà découvert malheureusement plusieurs centaines de personnes décédées. Merci beaucoup, Monsieur Glover.
Merci beaucoup aussi.